Actu SF, les podcasts.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud, je crois que c'est ouvert donc ça devrait jouer parce que la chaleur est de la partie, mais ça veut dire aussi que le beau temps est de la partie et tout ça va très bien. Donc nous allons avoir une table ronde consacrée avec un titre qui s'appelle « Destination les étoiles ». Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau plusieurs personnes, plusieurs auteurs, trois auteurs français et un auteur anglais. Les trois auteurs français, il s'agit de Laurent Genefort qui est ici, de Olivier Paquet juste à côté, de Victor Dixon qui est là et donc de Al Robertson, voilà. Les trois auteurs français, eux, ils ont tous reçu le Grand Prix de l'Imaginaire dans différentes catégories. C'est donc un panel d'auteurs réputés qui se trouve ici et Al Robertson ne l'a pas encore reçu, mais je pense que ça ne saurait tarder. je les remercie d'être ici sur cette table ronde. Et tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous poser une question à tous les quatre. Ah oui, puis j'oublie Morgane Seysana, c'est comme ça qu'on dit, traductrice qui va nous aider à mieux comprendre certaines paroles de Al Robertson, mais qui parle, semble-t-il, très bien français. Donc, il va essayer de s'exprimer en français. Bravo à lui. Donc, une table ronde qui s'appelle « Destination les étoiles ». Et j'ai envie de poser une question aux quatre auteurs présents. Ils répondront à tour de rôle. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi aller dans l'espace? La Terre ne vous suffit pas? Qui veut répondre? C'est une question difficile. Oui.
Peut-être juste, l'espace ça fait rêver en tant qu'auteur, et même tout le monde, il suffit de regarder les étoiles pour imaginer des choses. Ceci dit, c'est vrai que récemment, on a de plus en plus de scientifiques qui, pour des raisons bien concrètes, disent qu'il faut qu'on ait une base arrière, un plan B, au cas où la Terre souffrirait trop du réchauffement climatique ou de tous les traumatismes qu'on lui fait subir. Il me semble que c'est Stephen Hawking qui avait déclaré ça récemment en disant que pour lui, c'était l'urgence absolue dans les 50 prochaines années d'avoir une autre planète à coloniser pour la survie, vraiment l'enjeu de la survie de l'espèce humaine. Et puis on a aussi Elon Musk, le fameux milliardaire aux États-Unis, qui fait une fixation sur Mars en particulier pour les mêmes raisons, pour avoir une base arrière. Donc c'est pas les étoiles, c'est une planète du système solaire, mais c'est une des raisons pour lesquelles la Terre ne suffit pas, ou en tout cas on aurait besoin d'une autre planète. Oui.
Oui, parce que c'est là, je crois, je veux bien aller là, je veux bien le voir, expérimenter l'espace. Et aussi, il y a quelque chose d'humain, je crois, que nous voulons bien explorer des places nouvelles, des espaces nouvelles. Et on voit maintenant, nous avons trouvé tout le monde entier, alors nous avons inventé l'Internet pour devenir un nouvel espace d'expérimenter et d'explorer. Et aussi, pour moi, vous avez dit des raisons scientifiques, des raisons commerçantes. Et pour moi, ce sont des raisons esthétiques aussi, parce que c'est très beau, là, de voir the rings of Saturn.
Les anneaux de
Saturn, la Lune surgit par la Terre, tous les trucs comme ça, c'est très beau de voir, je crois. Alors, c'est esthétique aussi.
Il y a aussi, plus simplement, il y a aussi des choses d'enfance. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais gamin à l'époque. Je suis toujours un peu gamin, d'ailleurs. J'étais du côté de Chamonix, donc dans la montagne, la nuit. Et c'est un truc qu'on ne voit qu'à la montagne, c'est de voir vraiment qu'il y a beaucoup d'étoiles dans l'espace. Et cette vision-là, cette émotion-là de se dire que... Parce que quand on est en ville, quand on a la chance de voir des étoiles, on en voit une dizaine. Et quand on est vraiment à la montagne avec un air pur, on voit la Voie lactée, la bande, le ruban comme ça. Et c'est une expérience, on se dit vraiment, c'est plus qu'un décor, c'est pas dispersé, il y a une vie, on sent qu'il y a un aspect vivant là-dedans, et c'est ce qui pousse aussi à y aller. Donc il y a ça, et l'autre chose qui est aussi un truc de gamin, c'est-à-dire quand j'étais gamin, je fais partie de cette génération, qui a connu un dessin animé qui s'appelait Albator. Et autre, le fait que donc, c'était Harlock en VO. Et ce qui était à l'époque, ce qui m'avait fasciné, outre le fait que c'est le beau ténébreux pirate de l'espace, cet aspect-là, mais ce qui était prégnant et dans les autres œuvres de l'auteur d'Albator Matsumoto, c'est le fait qu'on pouvait vivre dans l'espace. C'est-à-dire, c'est pas simplement aller d'une planète à une autre, c'est-à-dire être quelqu'un de l'espace et que ça signifiait quelque chose. Et en fait, après, quand j'ai vu des choses comme, je pense à ça parce que Tom Wolfe est mort récemment, donc The Right Stuff, l'étoffe des héros, le mouvement vers l'espace, c'est-à-dire les pilotes c'est devenu une communauté en elle-même, c'est-à-dire ceux qui sont allés dans l'espace étaient différents de ceux qui sont restés sur Terre. Et que rendre ça dans un roman, je trouvais que c'était quelque chose d'important, de rendre le fait que être de l'espace, ce n'est pas être terrien.
Non, c'est bon. Moi, c'est un mélange de tout ça. c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est devenu tellement naturel, parce que j'ai commencé à lire de la science-fiction vers l'âge de 8-9 ans. Et moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai du mal à lire quelque chose qui se réduit à la Terre. On m'avait demandé, en fait, pour une revue d'astronomie, quelles étaient les images, moi, de l'espace qui m'avaient le plus impressionné. Et moi, j'avais mis Star Wars, en fait. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des images réelles de Hubble ou des appareils, des prises de vue réelles. C'était finalement des étoiles binaires dans tel bouquin de science-fiction. Et finalement, la SF, elle a plus peuplé l'espace que la science, au final. C'est assez étonnant. Et donc de redescendre après ça, c'est plus difficile. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur Albator, moi en fait j'ai vécu un peu la même chose, mais niveau littérature. Assez jeune, j'ai lu La schismatrice de Bruce Sterling, j'ai été vraiment confronté à ce que tu disais, c'est-à-dire vivre dans l'espace, mais vivre vraiment de façon charnelle dans l'espace, c'est-à-dire avec... Les eaux qui se décalcifient. Enfin, tout à coup, ça prenait une dimension humaine que le discours sur l'espace, à l'époque, dans les années 80, qui était un discours épique et nationaliste, n'arrivait pas à transmettre au grand public. La SF, elle a peuplé ce que la science n'arrivait pas, en fait, à transmettre, c'est-à-dire montrer des hommes qui souffrent, qui sont en but à des problématiques humaines, pas seulement techniques, mais humaines aussi. Et ce qui était en général balayé sous le tapis de la conquête de l'espace. Voilà.
Merci. Je voudrais entrer un peu plus en avant dans les œuvres de nos auteurs, parce qu'ils n'ont pas tous le même univers. Ça, c'est un peu la caractéristique des auteurs de science-fiction. Par exemple, je voudrais vous demander, Olivier Paquet, qu'est-ce que c'est que le Meltkin ? Le Meltkin, c'est un vaisseau spatial qui est plutôt particulier. Comment est-il né ? Est-ce que sans spoiler l'aventure, est-ce que c'est possible de raconter un petit peu sa fonction, ses particularités ?
Alors, pour parler de ce navire, il faut parler de l'humanité, de cette manière. C'est-à-dire que c'est dans un univers où l'humanité a quitté la Terre et s'est dispersée dans un ensemble de planètes qui sont relativement proches les unes des autres. Et sur chaque planète, les humains ont développé des cultures. Alors, il y a des cultures asiatiques, des cultures austro-hongroises, à chacun selon sa culture. Il y a une sorte de conditionnement mental qui fait que ces cultures sont figées. Et le Meltkin, qu'est-ce que c'est ? C'est un vaisseau université qui recueille des adolescents qui sont finalement qui ne sont plus bien dans ces cultures, qui sont en train de se différencier. Et donc, comme ça peut créer une révolution ou un problème, d'une certaine manière, on les exfiltre pour être dans ce vaisseau. Et ils forment finalement une nouvelle... ils sont éduqués pour être de l'espace, pour à la fois, ils vont parcourir chaque planète, toutes ces cultures, avoir une conscience de ce qu'est l'humanité dans sa globalité. Et à la fin, ils pourront choisir, contrairement à tous les autres humains, où ils veulent être. Ils peuvent rester dans l'espace, ils peuvent s'établir sur une planète. Et c'est ça, ils ont la liberté de choix total. Et ils forment une sorte de... Alors, ce n'est pas une caste, mais parce qu'ils sont un peu marginaux par rapport à ces cultures. Donc, le Melkin produit ça. Et en fait, ça produit des extraterrestres, d'une certaine manière. Ces humains sont des extraterrestres, d'une certaine manière. Parce que, bon, pour pas détailler, il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres dans mon univers. Et donc, le navire représente ça. Et ce navire a une autre caractéristique, c'est-à-dire que l'humanité a quitté la Terre avec plusieurs milliers de vaisseaux. Et en fait, le Melkin, chaque pièce du Melkin, c'est une pièce venant de tous les vaisseaux qui sont venus depuis la Terre. Et même, par exemple, le filtre à café vient d'un vaisseau, choses comme ça. Et donc, quand on voit passer ce navire, ce n'est pas simplement n'importe quel navire. Il est magnifique, tout le monde le sait, mais c'est à la fois le résultat, c'est encore le souvenir de l'humanité d'où elle venait, d'où elle vient, de tous ces vaisseaux. Et c'est ça qui et c'est un vaisseau, par exemple, donc il fait un voyage de chaque planète, et ce voyage est long. Et ce qui fait que de temps en temps, les enfants qui sont là ne reverront peut-être jamais ce vaisseau de toute leur existence. Donc à chaque fois, dès qu'il arrive, c'est une fête, et dès qu'il repart aussi, c'est une fête. C'est un sentiment qui relie toute l'humanité. Donc voilà, c'est ça, le Melkin, c'est ça.
C'est cette humanité spatiale, en quelque sorte, dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Ouais. Très bien. Station La Chute, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les livres ici. Est-ce que c'est filmé? Non, on ne voit pas. Ah oui, d'accord, vous les voyez là. D'accord. Non, c'est bon. Ok, ouais, vous pouvez monter. Merci. Station La Chute reste dans le système solaire, mais il y a eu une catastrophe au début. Est-ce que c'est le point de départ du récit?
Le départ, la catastrophe s'est passée il y a 700 ans quand le roman commence. Alors toute l'humanité a l'habitude de vivre en espace, de vivre dans station, dans autres planètes, dans les lunes des planètes. Nous sommes très distribués dans le système solaire, mais nous habitons plus à la Terre. Et pour moi, votre roman, c'est un roman d'une grande exploration. Et ce que j'ai voulu penser, c'est la tendance d'humanité de vouloir que les trucs changent pas, qu'ils restent toujours les mêmes. Alors dans le livre, nous sommes allés dans l'espace, nous habitons en espace, dans une très grande station qui orbite la Terre. Nous avons toutes les planètes, nous les explorons. Mais la plus grande chose que nous avons fait, c'est de bâtir des très grands centres commerçants et de faire de la commerce, de faire des courses et de s'obséder avec des marques. Et l'action des romans, de Crashing Heaven, Station La Chute, et puis Waking Hell, la suite, c'est le sujet des gens d'humanité et des intelligences artificielles qui veulent pousser contre ça, qui veulent devenir les explorateurs et qui veulent voir un plus grand univers. Parce que pour moi, c'est une grande lutte dans l'humanité. Quand les gens qui veulent... Ouais, je veux que tu sois être confortable, que tu ne changes pas, que c'est toujours le même. Et ça, c'est bon, c'est utile. Par exemple, si on a des enfants, on a besoin de ça. On a besoin que des choses ne changent pas pendant quelques temps. Mais il faut s'échanger, explorer, trouver des trucs nouveaux. Et les héros des livres sont des gens qui voudraient trouver les trucs nouveaux.
Merci. Je vais peut-être lire un extrait de Phobos, de Victor Dixon. C'est facile, c'est le début, la première page.
Bon.
Il y a des petits dessins aussi dans le livre. Ça s'appelle Programme Genesis, appel à candidature. 6 prétendants d'un côté, 6 prétendantes de l'autre, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Marquez l'histoire avec un grand H en rachetant la NASA. et tout son équipement au gouvernement surendetté des États-Unis, le fonds d'investissement multinational Atlas Capital a décidé de mettre un coup d'accélérateur à la conquête spatiale. Comment ? Grâce à l'argent de la publicité. Et à vous. Le programme Genesis, c'est à la fois un projet spatial unique et une émission de divertissement jamais vue. La première tentative de colonisation de Mars est le plus grand show de l'histoire. Vous pouvez en faire partie. Trouvez l'amour avec un grand A. Tous les jeunes terriens, au sommet de leur fertilité, sont invités à postuler au programme Genesis. Les 6 prétendants et les 6 prétendantes sélectionnées feront connaissance lors du voyage en allée simple vers la planète rouge sur laquelle ils fonderont leur famille. Ils auront 5 mois pour se séduire et choisir le partenaire avec qui enfanter. En échange de cette aventure unique, ils autorisent des caméras embarquées à retransmettre leur séance de speed dating dans l'espace et chaque instant du reste de leur vie sur Mars, 24 heures sur 24. Programme Genesis, vous avez entre 17 et 20 ans, vous voulez participer à la genèse d'un nouveau monde, envoyez votre candidature dès aujourd'hui et écrivez la plus belle histoire d'amour de tous les temps, la vôtre. Lié exploration spatiale et télé-réalité, il fallait oser. D'où vous est venue l'idée et comment avez-vous construit ce scénario a priori contre nature ?
Alors en fait, il y a deux sources d'inspiration à Phobos. Il y a d'une part la fascination pour les étoiles qui correspond à la première question au début de cette table ronde. Moi, ça m'a toujours inspiré, fasciné, ces autres mondes, essayer d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir. Et puis l'autre source d'inspiration, c'est pas dans l'espace que je suis allé la chercher, c'est ici sur Terre. Et ce sont tous ces écrans qui nous entourent de plus en plus à travers les téléréalités, les smartphones, les réseaux sociaux. On est filmé en permanence, on se met nous-mêmes en scène. Et c'est un monde d'images dans lequel on vit pour le meilleur et pour le pire. Hein, comme dans toute avancée technologique, il y a des aspects positifs ou négatifs. Et j'ai essayé de coupler ces deux thèmes dans Phobos qui donnent naissance au programme Genesis que vous avez très très bien lu. Ça me donne envie de m'inscrire. Donc voilà. Mais pour revenir sur ce que disait Laurent, une certaine science-fiction... dans les années peut-être 60-70, à imaginer l'espace de manière militariste, impérialiste. Il fallait y aller avec les gouvernements, avec l'armée. Et il y a toute une production qui aborde l'espace de cette manière. Et Hal, par contre, lui, parle de l'aspect commercial de ces mondes qui se transforment en centres commerciaux géants, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai l'impression qu'on est quand même dans un autre monde aujourd'hui. Il y a un paradigme commercial qui est quand même... très prégnant, qui est partout. Et j'ai l'impression que la conquête spatiale, elle va se faire sans doute avec cette composante commerciale. Ça en fera partie. Et je me suis dit qu'un show de télé-réalité avec les recettes que ça peut générer serait un moyen d'aller vers Mars, peut-être à moindre frais, ou en tout cas assez, assez crédible. Et on voit que, autant dans les années 60, quand on a marché sur la Lune, c'était le fait de la NASA avec une volonté gouvernementale très forte. Aujourd'hui, les acteurs les plus dynamiques de l'exploration spatiale, c'est, pour parler d'Elon Musk à nouveau, sa société SpaceX, qui est une société privée. Et il y en a d'autres, hein, il n'est pas le seul. Donc on a comme ça des initiatives privées avec forcément une dimension commerciale de plus en plus qui viennent se mêler à cette idée de conquête spatiale. Donc c'est de ça qu'est né Phobos. Et puis après, ça m'a permis d'avoir toute une réflexion sur l'image, sur la mise en scène, sur les faux semblants, sur les apparences. Et je me suis beaucoup amusé à écrire cette histoire.
Il y a plusieurs volumes. Hein. Ici, il n'y en a qu'un, mais il y en a combien ?
Il y en a 5.
Il y en a 5
volumes, oui.
Donc l'histoire, elle est... Ils en mettent du temps à séduire.
Oui, c'est un challenge toujours recommencé. Il ne faut rien prendre pour acquis, hein, la séduction. Alors, ceci dit, leurs choix de couple ont lieu dans le tome 1. Je ne veux rien spoiler du tout. Et ensuite, on passera à d'autres problématiques par la suite.
Laurent Genefort, vous allez beaucoup plus loin, vous, dans l'univers, avec l'expansion. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est l'univers dans lequel se trouvent vos personnages et qui ne sont pas tous humains, en quelque sorte ?
Alors, moi, ce que je fais, c'est du space opéra. Ça veut dire que moi, ça se passe dans l'espace, mais il n'y a pas... le space opéra implique, contrairement aux romans spatiaux, on va dire, auquel le space opéra appartient, mais le space opéra, je pense, a cette caractéristique qui coupe les ponts avec le monde contemporain. Le space opéra, c'est, euh, c'est ailleurs et demain, mais ça autorise pas de pont vers aujourd'hui, je pense. Et moi, c'est le cas de l'univers que je décris. Alors, il y a l'essentiel de mon space opéra se passe dans un temps indéterminé, mais c'est plusieurs, de nombreux siècles, on va dire. Et j'allais dire partout, sauf sur Terre. L'humanité a découvert un réseau de trous de verre abandonnés, enfin qui n'est plus utilisé. Et donc, elle s'est appropriée. Et grâce à ce réseau, elle a colonisé une vingtaine de milliers de mondes. Et dès le départ, la Terre a été coupée de ce réseau. Donc, on l'appelle le berceau. Mais voilà, c'est juste un mythe. Au bout d'un moment, ça devient un mythe, d'ailleurs. Une sorte de cycle qui s'appelle Omal, et à la fois à l'intérieur et en dehors de ce truc, puisque les humains sont arrivés à l'intérieur d'une grande structure qui s'appelle Omal. La porte qui ouvrait sur ce monde s'est refermée, et les humains piégés à l'intérieur ont développé leur propre civilisation, en contact avec deux autres espèces extraterrestres qui sont arrivées par par la même porte, on va dire, par la même voie. Et voilà. Et donc les humains ont oublié qu'il existait un univers extérieur à cette grande structure. Et voilà, ils ont continué à vivre leur vie, mais pour le coup, en contact avec deux autres espèces.
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est les rapports entre ces différentes espèces, parce qu'elles ne pensent pas toutes de la même manière.
Oui, alors, en fait, il y a deux... Pour moi, le contact avec les extraterrestres, qui est inhérent pour moi à la conquête de l'espace, enfin, au space opéra, j'imagine pas de space opéra sans un contact à un moment, enfin sans le contact avec l'altérité. Et pour moi, qui considère que la SF, c'est avant tout une littérature de l'altérité, l'altérité physique à travers des systèmes stellaires exotiques, des systèmes binaires, des systèmes, mais juste le fait que ce soit ailleurs, on sait déjà que ce sera différent, en fait. Mais à un moment, il faut qu'il y ait contact. Si on considère qu'on n'est pas un accident de l'histoire, mais quelque chose de très commun, parce que c'est juste les lois de la physique et de la chimie qui s'appliquent, à un moment, on est forcément, on se retrouve en contact. Quand on a la possibilité de se transporter très facilement sur d'autres mondes, à un moment, il y a un contact qui se produit. Moi, ce que je voulais faire avec Omal, c'est montrer une humanité qui est en contact depuis déjà longtemps avec les extraterrestres. Parce que souvent, la science-fiction, elle va se focaliser sur le contact même, c'est-à-dire le moment où l'humanité se découvre qu'elle n'est pas seule, et donc il y a ce moment de basculement, mais moi je voulais que le basculement il ait eu lieu déjà il y a tellement longtemps que l'extraterrestre est quelque chose de tout à fait naturel, que l'altérité soit totalement intégrée dans notre façon de concevoir le monde, en fait.
Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle Contact, justement.
Voilà, mais le Contact représente très bien un très large pan du traitement extraterrestre. Et c'est vrai que quand ça se passe sur Terre, moi c'est ce que j'ai fait avec Point Chaud, je traite de ça, je traite du contact. Et c'est toujours, c'est ce qu'il y a de plus riche, hein, de toute façon, c'est ce moment où il faut se réformer, où il faut réformer notre psyché la plus profonde, même. Et donc c'est toujours très riche. Mais il y a quelque chose d'aussi riche qui est le contact dans la durée. Et c'est là où je trouve où ça se joue, où notre humanité se joue, en fait. Elle se joue dans la durée.
Mais pour un auteur, imaginez justement que le contact a déjà eu lieu et qu'on est dans la durée, ça doit représenter un bel effort d'imagination.
C'est surtout très dur de conserver l'idée d'altérité tout au long de... quand on est né avec. Qu'est-ce qui se passe quand on est né avec? Mais moi, en fait, ça me rappelle d'une certaine manière la mondialisation, et notamment avec Internet, où il y avait, une pensée de l'exotisme au sens... c'est devenu péjoratif, mais il y avait un exotisme positif, un amour de l'autre réellement désintéressé et pour étendre son champ de connaissances, pour... pour étendre son champ de conscience, en fait. Et c'est quelque chose que, j'allais dire, que la mondialisation a tué quelque part, cette espèce d'émerveillement face à l'autre. Voilà, c'est quelque chose que, je pense, la mondialisation a tué, et on se retrouve à s'affronter, et on ne s'émerveille plus, en fait, de l'autre. Et finalement, l'extraterrestre, c'est aussi une façon de retrouver cet émerveillement face à l'altérité, que la finitude du monde et que l'abolition des distances a un peu tué. Enfin, c'est quelque chose à redécouvrir, plus exactement. Je pense pas que ça l'ait tué. C'est juste quelque chose à redécouvrir, je pense.
Merci. Vous parlez d'altérité. Alors, justement, à propos d'altérité, dans le roman de Hal Robertson, il y a un personnage qui est plutôt inédit. Il s'agit d'Hugo Fist. Comment vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ce personnage est unique?
Well, ce personnage, oui, il est unique dans le monde du livre. Et je ne sais pas, peut-être il est unique dans la science-fiction. Il est une marionnette psychotique qui habite dans l'anime et dans la tête, dans l'âme d'un comptable d'avenir. Et Hugo est un fusil, un weapon.
Oui, c'est ça.
Un arme qui a été construite de battre contre les intelligences artificielles. Et lui, il est vraiment un militant spreadsheet. How do you say that?
Ah oui, c'est comme un tableau de données
militant. Oui, c'est comme un tableau de données militant. Et il habite dans un monde où les trucs corporates, les sociétés sont devenues sentientes, qui sont devenues self-aware, soit... Ok, elles ont conscience d'elles-mêmes. Et les dieux les prennent pour les dieux. Les gens les prennent pour les dieux. Alors, parce qu'il a été né dans comptable, il peut comprendre ces trucs, il peut attaquer ces trucs. Et il est très dangereux dans ce monde. Et il est l'autre. Il est aussi, parce qu'il est marionnette, pour moi, il est un mode de pensée à la technologie. Parce qu'on a une marionnette et ça n'existe plus quand on fait ça. Bonjour, je suis Hugo Fist, la marionnette. Et c'est vraiment, c'est mon main qui lui fait vivre. Mais les marionnettes sont très fameuses pour avoir leur propre vie et pour posséder leur maître. Et ça, c'est exactement ce que Hugo fait dans le livre. Et ce que la technologie fait, tu nos smartphones, les trucs comme Facebook, Twitter, tous les trucs comme ça, ils ne vivent pas sans nous. Ils ne peuvent pas vivre sans nous. Mais ils nous possèdent et ils nous contrôlent. La technologie, nous créons la technologie et puis la technologie crée en nous. Et c'est de ça que je voulais penser avec Hugo Fist. Je crois que c'est d'expériencer l'autorité que nous créons qui est la technologie. Et lui, il existe pour penser de ça.
On est dans le symbolique ici.
Absolument, oui, et le symbole. Et pour moi, ça, c'est la joie de la science-fiction, la fantasy, même l'horreur, qu'on peut créer ces symboles qui sont absolument réels dans le livre. Et ils ont leur propre existence, leur propre vie et leur propre loi de vivre. Et c'est absolument réel. Et pour les caractères, ils sont réels. Mais ils sont aussi des symboles très grands et très forts. Et de pouvoir faire deux ensemble, ça, je trouve ça fascinant, c'est fantastique.
Alors, vous avez opposé tout à l'heure la science-fiction, on va dire, moderne ou actuelle, qui traite de la publicité, des firmes, du privé, etc. Et puis, la science-fiction des années 60 ou 70, 60, je ne sais plus, ou qui parle de militaire. Mais chez vous, Olivier Paquet, il y a quand même cette notion militaire encore, puisque... Sur les vaisseaux, il y a des grades, c'est organisé de manière hiérarchique, je vais dire.
Voilà. Alors, il y a une chose, c'est que dans l'univers du Milky, il y a des empires, mais ce sont des empires de communication. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des empires de communication. Et en fait, parce que l'une des idées, enfin, ce qui rend qui bouscule l'univers, c'est qu'au début, dans le premier roman, le Melkin, on a un univers où la communication se fait à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire donc entre les vaisseaux, entre les planètes, un message va à la vitesse, ce qui veut dire que ça peut mettre une année, etc. Et donc, ce que disait Laurent sur la question des cultures, de la mondialisation, chaque culture, finalement, n'est pas dérangée par les émissions des autres. Bon. Sauf que au moment du roman, on invente la communication instantanée. Et donc, qui fait que tout point, toute information peut instantanément être transmissible. Ce qui fait un changement, une révolution radicale. C'est-à-dire que ces empires de communication qui étaient dans un espace lent, si j'ose dire, pouvaient coexister parce qu'au bout d'un moment, quand le message met 10 ans, c'est comme s'il n'existait pas. Mais à partir du moment où la communication est instantanée, à ce moment-là, il y a une guerre entre ces empires. Puisque à ce moment-là, la question de la distance, il faut, puisque tous les messages peuvent être instantanés, ça change radicalement le mode de pensée. Et même à tel point que ça va modifier ces cultures. Ces cultures qui sont censées être stables, ne jamais être modifiées, sous l'avalanche de ces messages d'autres planètes, des missions qui viennent d'autres planètes, ça bouleverse tout et elles vont perdre leur conditionnement culturel. Et par quoi le remplacer ? Problème, qu'est-ce qui se passe ? À quelle humanité on est en train de créer ? Et c'est là où les gens du Melkin vont apporter des réponses. Mais juste sur la question de la communication instantanée, on parlait du réseau Internet. Pourquoi finalement j'ai situé mon histoire dans l'espace ? Parce qu'en fait, je traite de la question de la mondialisation, de la globalisation, des messages, de leur impact sur les cultures. J'aurais pu le créer sur Terre. Mais on a déjà Internet et on a l'impression, mais qui est techniquement fausse, que les messages sont instantanés. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, il y a une microseconde de différence. Quand je parle dans ce micro, il y a quand même un temps, il y a un chemin qui se passe. Mais qu'est-ce que cela signifie, une communication vraiment instantanée ? Ça veut dire qu'au lieu qu'on ait un émetteur, un message et un récepteur, ça veut dire que l'émetteur et le récepteur sont au même endroit, c'est un seul point. La communauté, le groupe, c'est un seul point. Qu'est-ce que cela signifie sur l'identité, la différence, etc. Et donc c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai situé mon univers dans l'espace. Et comment retrouver la distance, comment retrouver les cultures, les différences, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, l'espace était important.
Donc, effectivement, l'idée du réseau, d'Internet et tout ça, est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui un roman de science-fiction qui se passe dans des étoiles, on va dire, sans informatique ? Est-ce que ce serait possible ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou pas ?
Non, oui, je ne sais pas. C'est difficile dans la mesure où même la conquête spatiale, ça a été le développement de l'informatique, même si le premier ordinateur qui était gigantesque, maintenant, c'est ridicule par la miniaturisation. Donc l'informatique s'est développée, la miniaturisation, comme tu dis très justement, a été indispensable pour la conquête spatiale. Donc ça a été quelque chose, sans les grands calculateurs, sans ça, c'était impossible.
Mais on peut calculer en façon intéressante, c'est le roman de Adrian Tchaïkovski, Children of Man. Et ça, c'est super parce qu'il construit pas les microprocesseurs, mais les macroprocesseurs avec les grands nids de fourmis. Et puis, enfin, les speedres vont en espace avec des macroprocesseurs construits des fourmis. Et ça, c'est cool, c'est parfait.
Votre prochain roman, si on peut en parler, pour autant que vous soyez déjà engagé dans l'aventure, est-ce que ça va aussi se dérouler dans l'espace ou bien est-ce que vous avez envie d'écrire des récits qui se passent plutôt sur Terre ? Je vous pose la question.
Alors moi, je sors de la fin d'un cycle d'écriture dans l'espace, justement. Donc j'ai écrit un cycle qui s'appelle Spire et qui est l'histoire d'une compagnie de transport interstellaire. Alors là, il n'y a pas plus spatial, puisque justement le but c'était de montrer, alors que dans mes autres romans, les vaisseaux étaient juste des vecteurs de marchandises et de voilà de frais et de frais humains, on va dire. Là, ça devient un monde où l'on vit, où l'on meurt, avec ses us et coutumes, etc. Donc une société. Une société de transport, mais une société dans les deux sens, commercial et aussi de vie. Donc je suis en train de sortir, après avoir plusieurs années, m'être concentré sur le space opéra, là je vais revenir sur Terre. Ouais. Donc, plus aucun rapport. Vous allez me voir partir. des tables rondes sur le Space Opera.
Alors en fait, j'ai deux projets de roman, mais il y en a un qui est quand même plus abouti que l'autre. Donc, mais ce n'est pas un Space Opera en l'occurrence. C'est pour faire simple. Je vais mettre en scène une communauté d'intelligence artificielle qui échange entre elles pour créer la condition de justice ou d'amélioration de l'humanité. Donc créer une sorte d'utopie et en fait une utopie pour chacun et pas une utopie globale. Donc comment des intelligences artificielles peuvent intervenir dans la vie des humains pour qu'ils soient heureux. Donc ça, c'est une autre partie. Et puis j'ai un autre projet à ce moment-là qui va se dérouler dans l'espace, qui est un vieux projet que j'avais et qui tout d'un coup j'ai une opportunité de le faire, qui n'est pas dans le même genre, mais en fait, il y a longtemps, j'ai lu l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, d'une unité qui s'appelle Normandie-Niemen. Et qui était une communauté des pilotes français qui sont retrouvés sur le front russe. Et donc c'était à la fois des Français, il y avait des aristocrates, des ouvriers, etc., qui se retrouvaient confrontés aux Soviétiques, et comment c'était à la fois le fait de se battre contre les Allemands et en même temps la coexistence avec un autre mode de pensée. Voilà. Et je suis en train d'imaginer finalement un roman qui se déroule dans l'espace, qui est une sorte de Normandie-Niemen dans l'espace, avec des extraterrestres, ce soit là, qui font mon rôle de soviétique, mais qui sont en fait... Alors, le petit twist, c'est que ces extraterrestres sont en fait des empathes absolus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez dans un restaurant ou dans un bar tenu par ces extraterrestres, on vous donne le menu... Et vous commencez à choisir, et une fois que vous avez commencé à choisir, on vous sert le plat, parce qu'en fait, ils ont déjà perçu ce que vous allez choisir, vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, c'est juste des petits détails. Voilà, il y a ce projet comme ça, de espèce, mais qui militarise, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'aspect militaire. Bon, il y aura des combats spatiaux à la foison, mais je m'amuse là-dessus, c'est vraiment très, très ludique à ce niveau-là, mais c'est la coexistence avec... cette coexistence des extraterrestres, c'est ça qui m'intéresse essentiellement.
Moi, comme Olivier, j'ai deux projets sur le feu actuellement, mais j'aime bien garder le mystère, ne pas trop en dire pour créer la surprise pour les lecteurs. Donc l'un de ces deux projets se situe dans l'univers de Phobos. Il y a une vraie fin à l'issue du tome 4, mais néanmoins cet univers m'inspirait encore et j'avais encore une histoire à raconter. L'autre projet, ça n'a rien à voir, ça n'est pas de la science-fiction, et c'est un genre auquel je ne me suis pas frotté jusqu'à présent. J'ai pratiqué la fantasy urbaine dans ma première série, le 4 Jack Spark, le roman historique fantastique dans la deuxième, Animal, la science-fiction d'anticipation, très proche avec Phobos. Et donc ce nouveau projet, c'est un genre différent, voilà. Donc je garde l'effet de surprise pour plus tard.
Alors, la suite de Station La Chute, c'est déjà sorti en Angleterre, ça s'appelle Waking Hell, l'enfer se lève. Et ça, c'est au sujet du présent, de l'avenir, de ce qui se passe maintenant. Waking Hell, le jour se lève, l'enfer se lève. C'est au sujet du passé, de l'histoire très grande de l'avenir. Et ça traite avec comment le monde du station se crée et est devenu ce qu'il est. Après ça, j'ai un grand plan pour Purging System. Alors, on a Heaven, Hell, Purgatory. Oups. Ça, c'est l'avenir de l'avenir, et on rencontre le plus proche, une civilisation très proche, très étrange. It's a Distributed Autonomous Galactic Empire.
C'est un empire galactique
distribué autonome. Et autonome. Ça fonctionne sur un blockchain cosmique et tout est intéressant. Mais à l'instant, je travaille sur un livre, c'est Near Future, c'est prochain annu maintenant.
Dans un futur proche.
Moitié des caractères sont dans un livre... des personnages sont dans un livre de fantasy, moitié sont dans un livre de science-fiction, et ils rencontrent et ils doivent comprendre ce qui se passe vraiment. Et ce n'est pas quelque chose de cosmique, mais c'est de penser tout ce que nous avons créé, le Montréal, le monde aérien, toute la langue de la magie et de la religion et des espaces imaginaires et étranges qui viennent avec ça, coïncide très bien avec les langues de la magie et de la religion. Et c'est au sujet de ça. C'est de l'alchimie scientifique.
Il nous reste encore un moment. Alors, comme vous êtes nombreux dans le public, j'imagine aussi que vous avez de nombreuses questions. Je passe volontiers la parole à qui voudrait la prendre pour poser des questions aux auteurs ici présents. Il y a un micro dans la salle ? Il n'y a plus personne. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui ?
Oui, est-ce que, alors pour que tout le monde, si tout le monde n'a pas entendu, ta question, c'est est-ce que la mondialisation tueuse d'altérité, c'est pas une illusion ? Bah oui, en fait, c'est totalement une illusion. Et justement, ça, j'essaie de montrer, comment dire ? Pas tellement en quoi c'est une illusion, parce que on s'en rend vite compte. En fait, c'est compliqué à expliquer.
Je pense que c'est
comment dire. C'est une question en fait. C'est quelque chose qui tient pas. En fait, c'est la différence entre l'instantanéité. Et on voit ça sur Internet, par exemple dans les fake news, c'est typiquement, on est juste, les fake news c'est justement une illusion d'information. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est asséné, qui joue sur la sidération, et donc ça abolit le jugement, ce qui fait que voilà, on laisse rentrer ça, mais en fait au bout de, très vite ça s'effondre si on gratte un peu. Ça s'effondre, sauf si évidemment on a déjà des a priori qui font que c'est juste en fait un biais de confirmation qui se trouve, ça va vers un biais de confirmation, mais si c'est pas le cas, ça s'effondre assez vite. Et en fait finalement, l'altérité c'est pareil, c'est quelque chose qui revient quand on commence à gratter, quand on commence à voir, à considérer l'autre comme un autre, justement.
Mais c'est vrai qu'il y a une. Je te rejoins sur ce que tu disais, et également, il y a une virtualisation de notre expérience au monde, aujourd'hui, par les écrans et les images. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une illusion, cette illusion que le monde est à portée de main, qu'on est tous amis avec tout le monde, parce qu'il y a eu un like sur Facebook, mais il n'y a pas eu l'expérience réelle de rencontrer la personne, un vrai échange, et même la manière d'expérimenter le monde. On a besoin de nos cinq sens pour ça. Voir juste une représentation sur un écran, ça suffit pas. Et cette question du temps, de l'instantanéité, je pense qu'elle est cruciale. Est-ce que ce que tu disais, Olivier, dans ton travail, où tu transposes ça à une échelle cosmique ou galactique pour justement recréer un temps de transmission et du coup comprendre que c'est pas la porte à côté, justement, mais sur Terre aujourd'hui, même s'il y a quelques millisecondes sur le réseau Internet pour avoir les infos, on a l'impression qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de temps, donc l'espace-temps se réduit, il y a une espèce d'appauvrissement, d'aplatissement comme ça, et je pense que ça change forcément la manière dont on perçoit le monde change la manière dont on le pense aussi. Il y a un danger sans doute ici, oui.
Mais je voudrais revenir quand même sur un truc que tu disais, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait avant et maintenant. C'est-à-dire avant l'exotisme ou ce genre de choses. L'exotisme ou les images qu'on avait dans les années 30 sur le monde africain, pour faire simple, c'était des illusions, c'était des images, c'était virtuel. C'est-à-dire que le japonisme, ce genre, tous ces mouvements-là, c'était une vision qui est fantasmée, qui n'existe pas. Il a fallu, par exemple, Lévi-Strauss ou toute l'anthropologie pour reconsidérer ça. Mais tu vois, c'est un mouvement scientifique d'une certaine manière. Mais le rapport qu'ont eu les gens, le grand public avec l'étranger, c'était du fantasme, c'était du virtuel aussi, alors qu'il n'y avait pas les moyens de communication de maintenant. Donc, je veux dire, c'est pas le lien entre avant et maintenant. Et sur la question du commerce, ça me fait penser aussi à quelque chose. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Synesthésie, où les humains vont dans d'autres univers. Vraiment, c'est pas dans l'espace, dans notre galaxie, ils vont dans d'autres univers. Et en fait, ils vont. Et ce que j'ai voulu faire à travers cette nouvelle, c'est en fait, ils vont faire du commerce. Et en fait, j'ai voulu faire l'affrontement entre Rome et Carthage. Rome, c'est l'empire. Carthage, c'est le commerce. Parce que c'est un truc, quand j'étais gamin, quand on lit gamin les histoires de Rome contre Carthage, on voit Carthage, c'est une toute petite ville, on se dit, mais pourquoi ils veulent raser cette ville ? Bon. Et sauf qu'en fait, ils s'aperçoivent que l'empire, c'est gigantesque et qu'un empire commercial, c'est aussi des idées. C'est pas simplement échanger de l'argent. C'est aussi les idées, les modes de vie, et donc la survie de l'empire. Il fallait détruire Carthage parce que c'est beaucoup plus que ça. Moi, Coca-Cola, c'est pas juste une boisson avec de la pub. C'est aussi tout un mode de vie. Pourquoi on a, par exemple, au Liban, je pensais à la bande de Gaza parce que j'avais lu un bouquin là-dessus. Vous avez aussi des tensions par rapport aux DVD qui viennent des États-Unis, des émissions qui viennent des États-Unis, parce que les séries télé, parce qu'ils transmettent leur mode de vie, une autre façon de considérer les rapports entre les individus, la place de la femme, etc. Donc le commerce, ce n'est pas simplement un échange d'argent, c'est aussi un mode de vie.
Absolument. Les marques sont vraiment les nœuds d'idées. Et quand on achète une marque, on achète ces nœuds, on achète ces idées. Et pour moi, c'est quelque chose de très religieux de ça. C'est comme si on était un grec, un romain. Et, oh, je voudrais voyager bien. Je vais faire un sacrifice vers Mercure, quelque chose comme ça. Oh, je voudrais voyager bien. Je vais choisir le propre aéroport, le propre avion qui est volé par la marque que j'aime, pas la marque que je n'aime pas. C'est tout à fait, c'est très religieux. Et c'est intéressant que quand on pense à la commerce, c'est contre l'Empire, les valeurs sont très absolues. Ça, c'est notre pouvoir, notre droit. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Je vais tuer ce qui n'est pas correct. Dans le commerce, tout n'est pas fixé. Tout est relatif. Et ça, je crois, c'est intéressant. C'est une très bonne façon de rencontrer des gens parce que ça contient toujours les négociations, la compréhension. Mais il faut céder le pouvoir, qu'il faut qu'on change aussi comme partie de négociation. Peut-être c'est problématique pour les empires parce que ça. Et j'allais dire autre chose, mais j'avais absolument oublié. La question, c'était quoi? What was the question? Oh oui, c'est ça. Et aussi, pour moi, l'altérité existe toujours, parce que l'altérité, c'est en moi. Un Français fameux a dit « je et un autre ». Je ne comprends pas moi. Je contiens les trucs que je ne comprends pas, qui ne sont absolument pas partie de moi, mais qui existent dans moi. L'altérité, c'est impossible de comprendre un autre, vraiment. Si ma femme était ici, elle te dirait qu'il y a des temps quand je la comprends, il y a des temps quand je ne la comprends pas. L'altérité existe toujours, mais toute notre civilisation virtuelle, ça devient très difficile d'être profond et d'engager profondément avec les autres parce que c'est tant d'informations qui nous distrait et qui nous fait oublier ça. Alors je crois que nous n'avons pas le temps de voir l'altérité, mais c'est toujours là.
En fait, c'était pour rebondir par rapport à l'exotisme. Quand le transport devient instantané ou très rapide et qu'on est dans un système marchand, à ce moment-là, le fait d'être loin prend une valeur. Et finalement, ce qui est loin devient cher d'une certaine manière. Si on peut se mettre tous en contact en même temps, finalement, ce qui va devenir important, c'est de ne plus être en contact. Et ça me rappelle un roman classique dont je ne me rappelle plus le titre, où les gens sont capables de se téléporter instantanément. C'est un bouquin des années 60. Et il y a des sortes de personnes, en fait, des aristocrates, qui remettent au goût du jour les locomotives à vapeur, tout ce qui va lentement, en fait. Parce que, voilà. Et donc, et on a un mouvement de gens qui se déconnectent, qui justement ne veulent plus être dans un réseau pour retrouver un sens, justement pour retrouver une lenteur. Mais parce que ça devient, parce que finalement, quand tout le monde est instantané, la lenteur devient une valeur, en fait.
Juste rebondir sur la question de l'altérité, ça me fait penser à une chose. Quand on est écrivain de science-fiction, finalement, je vais reprendre une expression d'Elisabeth von Herburg, il y a une sorte d'asymptote, c'est-à-dire essayer de créer des extraterrestres qui sont vraiment différents de l'humain, qui en fait une impossibilité. On essaye de tendre vers ça, mais on s'adresse à des lecteurs qui sont humains, donc il faut que ces extraterrestres soient compréhensibles, et en même temps on s'approche, et je trouve que c'est aussi l'un des plaisirs propres, assez propres à la science-fiction, d'aller vers cette altérité en sachant qu'on ne va jamais y arriver, mais de s'en approcher. Et le plaisir est de s'en approcher sans y arriver.
Absolument, oui. Il faut toujours comprendre l'altérité avec ce qui n'est pas autre, avec soi-même. Et ça détruit un peu de l'altérité.
Voilà, nous arrivons gentiment au bout de cette table ronde. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question ? Votre question est très bien tombée parce que effectivement, moi je crois que ce qui caractérise finalement tous ces récits, qu'ils soient très loin dans l'espace ou moins loin, c'est cette confrontation avec l'altérité. Et même là, il s'agit de rencontrer une autre personne et de fonder un foyer. Enfin bref, on est dans cette altérité tout le temps. Très intéressant, je trouve. Une autre question ? Oui, tout au fond.
Juste un exemple, en fait. C'est moi, je pense en fait aux origines de la science-fiction. Il y a un auteur qui s'appelait Ronnie Henné, et il a notamment dans deux titres, l'Exipéus et la mort de la Terre, montré les descendants, le précurseur de l'homme et pas le précurseur, je sais pas comment on appelle ça, un ancêtre, parce que c'est un autre règne, mais disons celui qui a précédé l'homme et son successeur, et qui étaient des formes de vie qui sont quand même très très avec une altérité très forte. Et donc dès les origines de la SF se pose d'abord le problème de l'altérité, mais on a déjà en fait des exemples d'altérité très forte, en fait. Et on a Fred Hoyle avec le nuage noir. En fait, on a quand même des formes de vie. On trouve dans la SF des formes de vie assez radicales, quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours comme tu disais, c'est un défi, quoi. Et mais il y a des auteurs qui y arrivent déjà. Faut pas non plus Et puis
le problème, c'est que, le défi, c'est qu'on s'adresse à des lecteurs humains.
C'est-à-dire oui, c'est la différence.
Je veux dire que c'est pas la limite de l'intelligence de l'auteur.
Non, mais n'empêche que on peut circonvenir ça en se disant que par exemple, on a des exemples, par exemple d'évolution convergente avec des mammifères et des par exemple des reptiles ou des poissons qui ont abouti à des mêmes formes. Avec des chemins évolutionnaires totalement différents, avec des gènes complètement différents. L'œil, par exemple, a été inventé plein de fois dans l'évolution, au moins 7-8 fois, parce que la fonction est importante. Et donc on peut arriver à des formes de vie qui, sans être anthropomorphiques, sont par exemple avec une taille comparable et tout, sans renier l'altérité, sans se dire ah oui mais non, c'est juste parce que on n'est pas capable d'imaginer quelque chose comme autrement que de taille humaine qu'on va faire une taille humaine. Non, on peut parfaitement justifier ça d'un point de vue rationnel et scientifique. Non mais
c'est aussi c'est un problème quand on rencontre la vraie altérité, c'est que la fiction, ça adore les résolutions, les trucs deviennent compréhensibles, les opposites, les contraires viennent ensemble et tout est résolu. Le problème, l'altérité, parce que c'est autre, c'est impossible de faire ça. Et enfin, on le rencontre et puis il faut... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne le comprends pas. Et pour moi, je l'avais rencontré. J'ai vu un fantôme une fois. Et c'était une expérience très bizarre parce que c'était une réunion avec quelque chose que je ne peux pas comprendre, que ma science, mes métaphysiques ne peuvent pas contenir. Et il s'est passé et j'étais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. C'est bizarre. Et même quand on raconte l'histoire de ça, ce n'est pas vraiment une histoire parce que c'est rien de connaissance, rien de résolution, rien comme ça. C'est juste quelque chose sans contexte qui se passe. Je ne comprends pas. Et c'est difficile de mettre ça dans les contes que nous racontons.
Juste pour conclure sur ce sujet, c'est vrai que l'altérité, on pourrait avoir du mal à la comprendre dans le cadre d'une vie extraterrestre, mais peut-être même qu'on ne pourrait pas la percevoir. Il y a certains scientifiques qui spéculent qu'une forme de vie extraterrestre serait tellement différente de nous qu'elle ne serait pas perceptible par nos sens humains. Donc non seulement ça excède le champ de notre compréhension, mais si ça se trouve, il y a des extraterrestres qui vivent déjà autour de nous, peut-être des fantômes. Voilà. Qu'on ne perçoit pas, ou juste dans des circonstances très particulières. Peut-être que tu as visité un château en Écosse, je ne sais pas. Mais bon.
Merci. Donc, c'est sur cette fin ouverte, n'est-ce pas, que nous allons rester là. Je voudrais remercier tous les auteurs ici présents, Laurent Genefort, Olivier Paquet, Victor Dixon et Al Robertson, spécialement pour sa bonne connaissance du français. Bravo. Et puis... Féliciter aussi notre traductrice Morgane Cessana pour le gros travail qu'elle a eu à accomplir. Merci à tous.